Armand Silvestre, conte audacieux. Music. C'était à la dernière soirée de la comtesse Lefriant du Minet, dont le salon est, vous ne l'ignorez pas, un des plus sélects de Paris. Après s'être fait prier quelque temps, la charmante demoiselle Élodie Goulu du Pétard se mit au piano et commença d'exhaler une romance avec de tels écarts de la voix que j'eus peur un instant de voir quelque matou du quartier, croyant à un appel amoureux, entrer comme un ouragan par la fenêtre. Alors le colonel Yvan Toubénef, qui revient de la Grande-Bretagne, me dit avec cette solennité doctorale de langage, particulière aux Russes de distinction, « Une grande supériorité des Miss anglaises sur vos demoiselles de France, c'est qu'elles ne chantent plus dans les soirées mondaines. »
Depuis quand, colonel ?
Mais depuis qu'un autre exercice musical est devenu à la mode de l'autre côté de la Manche. Et comme je prêtais une oreille attentive, mais visiblement étonnée à son discours, « Maintenant, continua-t-il, le grand chic est, pour les jeunes personnes, de jouer de la trompette en s'accompagnant sur le piano. » Et comme je souriais d'un air incrédule. « Ne vous imaginez pas, continua-t-il encore, qu'elles appliquent à leurs jolies lèvres d'ignobles cornets de cuivre. Où serait alors un mérite commun avec elles à grand nombre de manants ? C'est sans instruments que nos sonneuses de fanfare imitent les sons des instruments guerriers. Elles s'emplissent pour cela les poumons d'air, par une longue et copieuse respiration, puis, gonflant les joues, elles serrent la bouche, non pas en l'arrondissant en cul de poule, mais en la pinçant, au contraire, dans sa longueur, par une façon de succion intérieure des lèvres, qui ne sont plus qu'une ligne très mince. Par cette fente à peine entr'ouverte et toute vibrante, elles font sortir des notes cuivrées d'un effet tout à fait comique, rappelant tout ensemble le clairon et le mirliton. Cette manière d'orchestre est devenue là-bas en tel honneur qu'on écrit maintenant de la musique pour lui. On trouve une partie de bouche en coulisses dans toutes les partitions nouvelles. Avec une quinzaine de demoiselles, on exécute une marche triomphale d'Aïda tout à fait émouvante. D'autres grands morceaux, du prophète par exemple, se prêtent merveilleusement à l'emploi de ce tube naturel. Cela est aussi agréable à regarder qu'à entendre. Car ce petit cœur de grimacière est d'un effet absolument comique. Il faut voir le sérieux des exécutantes et les applaudissements qu'elles recueillent. Ce jeu n'est cependant pas sans danger. Et le colonel prit une expression de visage mélancolique, qui excita au plus haut point ma curiosité. Pauvre sœur William Eltred, murmura-t-il, avec une grosse larme dans les yeux, qui lui roula le long du nez, jusque dans son sorbet. Puis, comprenant mon appétit de confidence, il m'entraîna dans un coin, sur une large causeuse, et poursuivit sans que j'eusse même à l'interroger. C'était un homme vraiment exquis que Sir William, et dont le suicide m'a causé une peine infinie. Un suicide par amour est toujours une chose touchante. J'ai voulu moi-même me tuer plusieurs fois, pour des femmes. Mais l'idée que je ne les reverrai plus ensuite m'en a toujours détournée. L'excès de mon amour, que des esprits superficiels auraient pu prendre pour un vil souci de la conservation, a vaincu mon amour même. Je n'ai pas voulu faire la lâcheté de cesser de souffrir. Mon pauvre ami était d'un tempérament moins énergique. Un matin, on le trouva qui se balançait au bout d'une corde dans son jardin. Cela sauva à son jardinier toute une récolte de prunes que les oiseaux ravageaient. À quelque chose, malheur est bon. Par un suprême sentiment de convenance, il avait englouti dans la poche de son gilet le bout de sa langue, qui lui pendait jusqu'au milieu du ventre, et rabattu sa chemise jusqu'à ses genoux, pour qu'on ne vît rien du désordre de sa personne. C'était un homme extrêmement bien élevé. Il n'avait jamais même été plus élevé que ce jour-là. Il avait demandé par testament authentique à être incinéré. Il paraît qu'il charbonna affreusement dans son creuset, ce qui est, au dire des crémateurs, l'indice d'une nature inflammable mais contenue. C'est à ce caractère qu'était due sa mystérieuse et fatale résolution. Mais le point de départ avait été une partie musicale, où sa fiancée jouait de l'instrument auto-sonore dont je vous ai parlé plus haut. Un petit ridicule de coquetterie ne fut pas non plus étranger à ce malheur, car tout événement ici-bas a des causes multiples, qui ne le déterminent qu'en se combinant, suivant d'obscures et inexorables lois. Ce travers de mon malheureux ami consistait à se cirer violemment les moustaches, pour leur donner plus de solidité dans l'aspect, et pour les effiler aux deux bouts, en pointe tellement dure et piquante qu'on avait toujours la crainte qu'il vous crevât un œil en se retournant brusquement. C'était un Hongrois, nommé Melchior Trouapipi, qui avait inventé ce stuc improprement décoré du nom de pommade et dont la force adhésive aurait pu être employée à raccommoder des porcelaines. Quant à la fiancée de William, Miss Edith Levrett, c'était une excellente figure de kepskek, blonde, avec des yeux bleus, et ayant pour tous les sports permis aux jeunes filles un goût endiablé. Et après un instant de silence, le colonel reprit. C'était chez Milady Tartil des Fesford. Un rendez-vous de noble compagnie, s'il s'en fut. Réunion de choix, où rien de choquant n'eût été toléré un seul instant. Dans un véritable bouquet de jeunes personnes de son âge, Miss Levrett apparaissait comme l'épi le plus doré d'une gerbe. Elle avait l'éclat particulier qu'ont les Anglaises avant l'hymen, une blancheur de peau près de laquelle la neige et les lys eussent fait de l'ombre. Une fraîcheur de plantes sauvages, avant que le soleil en eût séché la rosée. Puis les mensonges divins de la jupe et du corsage. La promesse de savoureuses rondeurs qui ne viendront pas. L'anglaise est comme les fruits qui demandent à être mangés verts, ou comme les roses qu'on doit cueillir en bouton. Le charmant parterre et le joli dessert que cette pétulante enfant pleine de grâce malicieuse. Sir William, qui était aussi bien entendu de la fête, la regardait avec des yeux fous. Elle l'agaçait par mille taquineries délicieuses, et jamais flirtation n'avait été plus ingénieusement variée. Ce jeu, qui a été vraisemblablement inventé par Saint Antoine, à qui son cochon conseillait moins de platonisme élégant, irrite les nerfs des étrangers. Et vous autres Français, vous y êtes particulièrement impropres. Mais les amoureux anglais, moins impatients que nous, en savourent en gourmet les douceurs. Ce soir-là, cependant, Sir William s'était attiré un bien joli coup d'éventail sur les doigts. Ne s'était-il pas avisé de voler à sa fiancée un baiser sur la bouche, à la faveur d'un tour de valse qui les avait conduits tournoyants jusque dans un petit salon écarté. Oh, un effleurement seulement des lèvres, mais assez cependant pour que les siennes aient bu un peu le souffle de l'adoré. Oh, William s'était contenté de faire celle-ci, en lui cassant sur le pouce le bijou japonais qu'elle tenait à la main. Et ils avaient continué de tontonner en silence. Cependant, les danses terminées, un peu de musique fut demandée aux Miss Mélomanes, qui toutes d'ailleurs avaient apporté leur surprise à ce concert faussement improvisé. Celle de Miss Edith Arabelle consistait en un duo, avec son amie Miss Jenny de Crotte. Un duo d'amour, pour cornet à piston, qu'elle devait exécuter avec la bouche, accompagnée en sourdine par le clavecin. C'était une page pour cuivre tout à fait déchirante de passion, et que les deux exécutantes étudia depuis un mois. Ce clou était impatiemment attendu. Sir William, frémissant comme une feuille automnale, demanda à tourner les pages de musique, et cette faveur lui fut accordée. Une vieille tante de Miss Jenny de Crotte se mit au piano, aux deux côtés duquel se tenaient les deux jeunes filles, droites et béloniennes, comme des statues de la victoire. Quelques arpèges, un poco animato, sur les touches d'ivoire, un de ces préludes troublants qui ouvrent l'âme aux émotions tragiques et tendres à la fois. C'était Miss Jenny qui commençait, par une plainte pleine de langueur qui lui sortit des lèvres, immobile et tendue en dedans, mélodieuse comme l'eau qui coule par une fissure. Miss Edith Arabelle devait y répondre par une explosion d'amour, où s'affirmait la virilité d'une passion débordante. car elle représentait l'homme dans ce duo. Comme son amie, mais avec un bien autre développement pulmonaire, elle respira de quoi faire marcher un orgue pendant 5 minutes, s'emplit d'air jusqu'aux babines, gonfla celle-ci, en refermant la bouche pour que rien ne sortît, infléchit celle-ci en un coup de sabre ou comme un arc qui se tend, et poussa. Mais aucun son n'imita la trompette. Fatalité. Les lèvres de la jeune Anglaise, où dans le baiser de tout à l'heure un peu de l'épouvantable pommade du Hongrois trou à pipi était restée, étaient hermétiquement collées, ne se prêtaient à aucune vibration. Et lourde, s'était refermée comme le couvercle d'une tombe. La physique a d'immortelles lois. La grande masse d'air engloutie par l'imprudente ne pouvait demeurer en elle, sous l'effroyable pression où l'emprisonnaient ses efforts. Fatalement, elle chercha une autre issue. Le coup de trompette vint trop tard, et ne vint pas d'où il était attendu. À cela près, on n'avait jamais mieux fait, même à Jéricho. Les anges auraient pu demander l'adresse du fabricant pour leur fanfare du jugement dernier. Par un sentiment de pudeur qui l'honore, Miss Edith Arabelle ne pensa même pas à boucher la note. Ce fut sec comme un coup de trique, impérieux comme une volée de tonnerre. L'effet fut foudroyant. Sir William, atterré, se rappela l'histoire chevaleresque d'un gentilhomme français, qui se dévoua dans une occurrence pareille et prit sur son dos ce qui sortait de celui de sa bien-aimée. « C'est moi ! C'est moi ! » s'écria-t-il, « moi seul !» Et il se frappa la poitrine, dans un mea culpa subitement hypocrite. Il comptait sur l'élan de reconnaissance que méritait un tel acte d'abnégation. Mais celui-ci, qui fait foi sur la générosité féminine, est un sot. Ravi d'être tiré d'affaire, mais se souvenant avec rancune que c'était le baiser maudit qui l'avait ainsi ensorcelé, « Sir William, s'écria-t-elle, jamais je n'épouserai un malpropre. » 2 jours après, Sir William se pendait. C'est ainsi que ce qui vous vaut une récompense dans votre chevaleresque France est payé, dans l'ingrate Angleterre, d'un châtiment. Messieurs, une partie de whist ? Nous demanda en accourant gracieusement à nous la charmante comtesse le friand du minet.